Nous sommes au début des années 80, à Florence, la capitale de la région de la Toscane, en Italie. Florence est l'une des plus belles villes d'Italie. Reconnue pour sa richesse artistique et culturelle, c'est une destination prisée des touristes. La cité toscane est l'une des plus romantiques au monde. L'Italie l'ignore encore, mais elle va connaître l'affaire criminelle la plus longue et terrifiante de toute son histoire. Le dimanche 7 juin 1981, un policier qui n'est pas en service remarque une voiture abandonnée sur un chemin de terre au sud-ouest de Florence. Un homme à moitié nu est assis sur le siège du conducteur. Au début, le policier croit qu'il dort, mais bien vite, il se rend compte qu'il est mort. Et c'est pas tout. Le policier aperçoit un autre corps 6 mètres plus loin. Il s'agit d'un cadavre féminin, à moitié dévêtu, son jean a été abaissé. L'enquête révèle rapidement l'identité du couple. Giovanni Faggi, 30 ans, et Carmela De Nuccio, 21 ans. Le médecin légiste qui procède aux autopsies constate qu'ils ont tous les deux reçu de multiples coups de couteau et au moins 7 balles de calibre 22. Des douilles de Winchester ont été ramassées sur la scène de crime. Autant vous dire que le couple a été massacré. Mais le plus choquant va suivre. Carmela a été atrocement mutilée. Sa région pubienne a été découpée et enlevée. Le médecin légiste qui procède à l'autopsie en fera des cauchemars pendant des mois. Chargés de l'enquête, les carabiniers, c'est-à-dire les gendarmes italiens, présument que les victimes étaient venues passer un moment intime dans ce coin de campagne isolé le samedi soir, et qu'ils ont été brusquement attaqués pendant qu'ils flirtaient. De toute évidence, le vol n'était pas le mobile du double meurtre parce que tout l'argent a été laissé sur place. Un suspect va être assez vite arrêté. Il s'agit d'un voyeur dont la voiture aurait été aperçue garée non loin du lieu du crime le samedi soir. Il faut savoir que la ville de Florence est entourée de collines et de zones de verdure. À l'époque, beaucoup de jeunes couples qui vivent encore chez leurs parents ont l'habitude d'aller en voiture dans des lieux tranquilles pour faire l'amour, ce qui a pour conséquence d'attirer des curieux et des obsédés qui se cachent derrière les buissons. Le voyeur arrêté après le double meurtre se nomme Enzo Spalletti. Interrogé par les forces de l'ordre, ce père de famille nie avoir été présent sur place. Mais son alibi est fragile et il aurait donné des détails à ses proches sur la mort du couple avant qu'il ne soit officiellement rapporté dans les médias. Fort de ces éléments, Enzo Spalletti est mis en prison. Vu les ressemblances, les carabiniers ne peuvent pas s'empêcher de penser à un autre double meurtre commis 7 ans plus tôt. Le 14 septembre 1974, Stefania Pettini, 18 ans, et Pasquale Genticor, 19 ans, avaient eux aussi été sauvagement assassinés dans leur voiture sur une route de campagne à l'extérieur de Florence. Tous les deux avaient reçu plusieurs balles et les experts de la balistique avaient établi que l'arme utilisée était un pistolet Beretta 22 long rifle. Détail horrible, Stefania avait elle en plus été poignardée près d'une centaine de fois dans la zone génitale. À l'époque, les policiers avaient cru au crime d'un maniaque sexuel, mais l'enquête s'était enlisée et l'affaire était devenue un cold case. Suite à l'incarcération d'Enzo Spalletti, le voyeur, la Toscane retrouve sa douceur de vivre. Pendant 4 mois seulement. Car le vendredi 23 octobre 1981, un autre couple d'automobilistes est découvert sans vie sur une route à Calenzano, une zone rurale juste en dehors de Florence. Les victimes s'appellent Stefano Baldi et Susanna Combi, âgées de 26 et 24 ans. Ils devaient prochainement se marier. La veille, ils s'étaient garés dans la campagne pour passer un moment charnel. L'autopsie établit que le couple a été tué par balle avant d'être achevé à l'arme blanche. Là encore, Susanna a subi des mutilations atroces. Sa région pubienne a été découpée et prélevée. Il s'agit de toute évidence d'un rituel macabre. Et il paraît clair que l'auteur du crime est le même que celui de Giovanni Faggi et Carmela De Nuccio, 4 mois plus tôt. Mais cette fois, le tueur semble s'être pressé. Et il a même laissé un indice derrière lui, une empreinte de chaussure taille 44 trouvée dans la boue. Ce détail indique que l'individu est probablement grand et robuste. Après ce nouveau double meurtre, les carabiniers réalisent leur erreur. Enzo Spalletti, le voyeur en prison, est complètement innocent. Il est donc libéré. Les policiers doivent se rendre à l'évidence. Tous ces crimes sont l'œuvre d'un redoutable tueur en série. Un dangereux pervers que l'on va vite surnommer le monstre de Florence. Grâce au témoignage d'un automobiliste qui aurait vu un individu suspect sur une route proche du lieu du crime, le portrait robot d'un suspect est établi. Il va devenir l'image la plus courante du monstre de Florence. Pendant plusieurs mois, le monstre ne fait plus parler de lui. Jusqu'au début de l'été 1982. Le samedi 19 juin 1982 au soir, un couple d'amoureux, Antonella Migliorini et Paolo Menardi, âgés de 19 et 22 ans, se fait attaquer dans sa voiture à Baïcano, un quartier peu fréquenté au sud de Florence. L'agresseur, qui était caché dans des buissons, a ouvert le feu sur les jeunes gens. Antonella est morte sur le coup, mais pas Paolo. Blessé, il a tenté de partir en voiture. Il a fait une marche arrière en catastrophe, mais il est resté coincé dans un fossé. Paolo a de la chance parce qu'une autre automobiliste qui pense qu'il a eu un accident s'arrête pour lui porter secours. Et le monstre de Florence s'enfuit immédiatement. Grièvement blessé, Paolo est transporté en ambulance jusqu'à un hôpital. Malheureusement, il va décéder peu de temps après son arrivée. La procureure en charge de l'affaire, Silvia Della Monica, elle a alors une idée. Elle veut tendre un piège au monstre et le pousser à commettre une erreur. Elle demande donc à la presse de publier une fausse information. Comme quoi, avant de mourir, Paolo aurait parlé à un ambulancier et donné des détails sur le tueur. Quelques jours plus tard, l'ambulancier commence à recevoir des coups de fil anonymes la nuit. « Allô, qui c'est ?» demande l'ambulancier. « C'est le monstre de Florence, » lui répond une voix masculine. Le serial killer le menace de mort ainsi que sa famille. La police va mettre l'ambulancier sous protection, mais on ne parviendra pas à tracer les appels téléphoniques car c'est techniquement impossible à l'époque. On n'arrive pas à savoir d'où a appelé le tueur. Les carabiniers sont revenus au point de départ, mais un rebondissement inattendu va survenir. Ils reçoivent une lettre anonyme qui les invite à s'intéresser à une ancienne affaire. Il est fait référence à un dossier de double meurtre commis 14 ans plus tôt. Une nuit d'août 1968, deux amants illégitimes avaient été assassinés dans une zone boisée à la périphérie de Florence. Mariés chacun de leur côté, Barbara Locci, 31 ans, et Antonio Lobianco, 29 ans, avaient été tués par balle dans leur voiture. Natalino, le fils de Barbara, âgé de seulement 6 ans, avait été épargné par le tueur. À l'époque, le coupable avait été facilement arrêté. Il s'agissait du mari de Barbara nommé Stefano Mele. Considéré comme mentalement lent, un peu l'idiot du village, Mele n'avait pas supporté d'être trompé. Voilà pourquoi il avait supprimé le couple d'amants et laissé son fils en vie. Reconnu coupable, Stefano Mele, le mari cocu, avait été condamné à 14 ans de prison. Et en étudiant les archives, les enquêteurs apprennent que Stefano Mele s'était servi d'un pistolet Beretta 22 long rifle qui n'avait jamais été retrouvé à l'époque. Mele avait raconté l'avoir laissé tomber par terre après le crime et l'arme avait disparu par la suite. Grâce aux douilles retrouvées sur place à l'époque, en 1968, les policiers se rendent compte qu'il s'agit de la même arme que celle utilisée par le monstre de Florence. On pense que d'une façon ou d'une autre, le monstre de Florence a récupéré ce pistolet pour s'en servir. Les policiers s'intéressent à un autre homme cité dans le dossier de 1968, Francesco Vinci. Avant d'être condamné, Stefano Mele avait accusé Vinci du meurtre de sa femme infidèle, car Vinci était un autre de ses amants. Selon Stefano Mele, l'arme appartenait à Francesco Vinci, qui était un petit criminel appartenant à un clan de Sardaigne. Mais Stefano Mele n'avait pas réussi à convaincre la justice italienne, et il avait été tout de même condamné. Le dossier avait été considéré clos. En 1982, les forces de l'ordre soupçonnent maintenant Francesco Vinci d'être le monstre de Florence. En effet, s'il était le véritable coupable du double crime de 1968 et s'il a récupéré son arme, il a très bien pu recommencer à tuer 14 ans plus tard. Vinci est donc interpellé par les carabiniers. Dans les mois qui suivent, les meurtres cessent. On pense que Florence en a fini avec toutes ses horreurs. À tort. Le samedi 10 septembre 1983, plus d'un an après le dernier meurtre du monstre, on retrouve deux touristes allemands morts non loin de Florence. Ulrich et Horst Mayer, tous les deux âgés de 24 ans, ont été abattus en pleine nuit dans leur combi Volkswagen. Les coups de feu ont été tirés depuis l'extérieur du fourgon à travers la vitre. Au départ, on ne pense pas au monstre, car aucun des cadavres n'a été mutilé. Mais des tests balistiques vont montrer que les deux Allemands ont été tués avec le fameux pistolet Beretta 22 long rifle. Il semblerait que le monstre de Florence ait fait erreur dans le noir. Il a cru que l'un des hommes était une femme car il était de petite taille et avait de longs cheveux blonds. Quoi qu'il en soit, les policiers italiens sont encore une fois obligés de reconnaître qu'ils ont fait une erreur, encore. Francesco Vinci, l'homme qu'ils ont arrêté, n'est pas le responsable des crimes. Vexé qu'on pense qu'il ait été arrêté, capturé, est-ce que le monstre de Florence n'a pas commis ce meurtre juste pour rappeler qu'il était toujours en liberté? Pendant un an, l'enquête continue. La police se focalise cette fois sur un autre suspect, Salvatore Vinci, qui est le frère de Francesco. Salvatore appartient au même clan de criminels sardes et il a lui aussi été l'amant de Barbara. On met Salvatore Vinci en détention. Malheureusement, le monstre de Florence va refaire parler de lui 10 mois plus tard. Le 30 juillet 1984, un couple est découvert brutalement assassiné dans une zone boisée de Vicio près de Florence. Pia Rontini, 18 ans, et Claudio Stefanacci, 21 ans, ont tous les deux été abattus et poignardés. Le corps de Pia a été affreusement mutilé comme les premières victimes. Le tueur a encore fait son rituel. Il lui a enlevé la région pubienne et lui a aussi sectionné le sein gauche. Mais cette fois, et c'est plutôt inhabituel, le monstre de Florence a laissé deux indices derrière lui. Une empreinte de main gauche sur le dessus de la voiture qui incite les enquêteurs à penser que le tueur tenait le pistolet de sa main droite et qu'il est donc droitier. On a aussi trouvé des marques de genoux sur le côté de la voiture qui suggèrent que le meurtrier mesure dans les 1m80-1m85. Conscients de s'être encore trompés, une nouvelle fois, les policiers italiens sont obligés de relâcher Salvatore Vinci. Les forces de l'ordre reçoivent néanmoins un témoignage intéressant. Le 30 juillet 1984 après-midi, quelques heures avant de se faire assassiner, Pia Rontini et Claudio Stefanacci sont allés dans un bar. Et selon un témoin, un autre client du bar, un homme étrange aurait passé son temps à observer la jeune femme. Et lorsque le couple est parti, l'homme aurait fait la même chose, comme s'il voulait les suivre. Un croquis de l'inconnu est réalisé par la police. Un an passe et l'enquête piétine. Mais le monstre de Florence n'a pas fini de semer la terreur dans la région. Le dimanche 8 septembre 1985 au soir, il fait deux nouvelles victimes. Nadine Morio et Jean-Michel Kravechvili, un couple de touristes français qui campaient près de leur voiture dans une zone rurale près de San Casciano, une ville à l'extérieur de Florence. Apparemment, le monstre a attaqué le couple par surprise en pleine nuit. Il a découpé la toile de leur tente avec un couteau et tiré sur ses occupants. Nadine est morte sur le coup. Jean-Michel a reçu une balle dans le bras, mais fort et sportif, il a réussi à s'enfuir. Manque de chance, au lieu de partir vers la route, il s'est dirigé dans la mauvaise direction, vers les bois. Le monstre a réussi à le rattraper et il l'a achevé avec son couteau. Il est ensuite retourné à la tente pour réaliser sa mutilation rituelle sur le corps de Nadine. Mais le pire va suivre. Le lendemain, le lundi 9 septembre 1985, une enveloppe arrive par la poste au bureau de Silvia Della Monica, la procureure, celle qui avait voulu jouer un tour au monstre en 1982. Sur l'enveloppe, l'adresse est écrite avec des lettres découpées dans un magazine, un peu comme pour les demandes de rançon. La secrétaire de la procureure ouvre l'enveloppe et là, c'est l'horreur totale. Parce que l'enveloppe ne contient aucune lettre ou message. Elle contient un morceau de sein de Nadine Morio, la touriste française assassinée la veille. Le monstre de Florence a envoyé un trophée macabre à la procureure, certainement pour la narguer. Passé le choc, les enquêteurs étudient l'enveloppe à la recherche d'indices et ils vont remarquer un détail. Il y a une faute d'orthographe au mot « Repubblica » qui n'a été écrit qu'avec un seul « B ». Ça fait dire aux policiers italiens que le monstre de Florence est possiblement une personne peu instruite parce qu'elle ne sait pas épeler correctement le mot « Repubblica ». Enfin, peu instruite ou pas, la personne qui se cache derrière le monstre de Florence est quand même assez maligne parce que ça fait des années qu'on ne parvient pas à l'arrêter et qu'en plus, elle prend le temps de jouer un jeu pervers avec la police. Nous en sommes maintenant à 14 victimes, 7 couples. Fait troublant, les 4 dernières victimes étaient des étrangers qui n'étaient vraisemblablement pas conscients des risques encourus. Sans méfiance, ils sont tombés entre les griffes du monstre. Les locaux, eux, ils évitent depuis longtemps de fréquenter les lieux déserts après le coucher du soleil. Depuis 4 ans, la population de Florence vit dans la peur. Il y a un sentiment de désespoir, y compris chez les forces de l'ordre, impuissantes à stopper le monstre. Étant donné que les carabiniers et les gendarmes italiens ont lamentablement échoué dans leur mission, c'est la police nationale qui prend le relais pour tenter d'arrêter le maniaque qui fait régner la terreur sur la Toscane. Après le crime de 1985, un nouveau croquis du monstre est réalisé. Le dessin est basé sur une description anonyme envoyée à la police. L'inspecteur en chef Ruggero Perugini est maintenant en charge de l'affaire et il décide de mettre le paquet. L'affaire du monstre de Florence est en effet particulièrement complexe à résoudre pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, le tueur a l'air de travailler seul et de choisir ses victimes au hasard. Le monstre n'a pratiquement été vu par aucun témoin en train d'agir. Le monstre agit vite, très vite. Il reste rarement plus de 10 minutes sur place. Les meurtres n'ont aucun mobile apparent. Et selon le criminologue italien Francesco De Faggio, aucun serial killer ne peut être assimilé au monstre de Florence. C'est un cas unique dans l'histoire de la criminologie pour plusieurs raisons. Le monstre de Florence fait de longues pauses entre chaque meurtre, en général un an, voire même 7 ans pour un cas, et il a donc le temps de s'organiser parfaitement. Le monstre de Florence ne semble pas agir par pulsion, au contraire, il planifie soigneusement ses crimes. Il sévit dans une région très vaste, toutes les zones de campagne autour de Florence, et dans des endroits boisés presque impossibles à surveiller. Il agit toujours la nuit et choisit les nuits les plus sombres, sans clair de lune. Le monstre de Florence se cache et attend que la situation soit optimale pour frapper, c'est-à-dire que ses victimes soient seules ou qu'il n'y ait aucun témoin aux alentours. Le monstre ne se livre jamais à aucune activité intime avec ses victimes avant ou après la mort. Ce qui rend cette affaire unique, c'est surtout la région qui sert de terrain de chasse au monstre. Avec ses 12 collines vallonnées, ses vignes et ses cyprès, le paysage de la Toscane est l'un des plus beaux en Europe. Il contraste avec l'horreur des crimes commis par le sadique. Dans cette affaire, la police italienne est en difficulté pour plusieurs raisons. Déjà à l'époque, les policiers transalpins sont habitués à travailler sur des homicides classiques, comme des exécutions par la mafia ou des crimes passionnels. Mais ils n'ont aucune expérience en matière de tueurs en série. Les policiers italiens ne savent pas traiter des dossiers de serial killers. Jusque-là, ils ont tenté de résoudre les meurtres avec des méthodes traditionnelles, en fouillant dans la vie des victimes, en interrogeant leur entourage. Mais cette méthode a vite montré ses limites. Les forces de l'ordre ont gaspillé beaucoup de temps sur des enquêtes partant dans de mauvaises directions et elles se sont souvent engagées sur des fausses pistes. Le plus gros problème, c'est que les policiers ont cherché jusqu'à présent un lien logique entre tous les meurtres. Or, tout laisse à penser qu'il n'y en a aucun. Le monstre de Florence ne connaît probablement pas ses victimes qui ne se connaissent pas entre elles. Les policiers ont certes découvert une connexion avec les meurtres de 1968, un double meurtre qui ressemble étrangement à ceux du monstre de Florence. Mais mis à part le mode opératoire et l'arme du crime, le fameux Beretta 22 long rifle qui avait été utilisé en 68 et dont on s'est resservi 14 ans plus tard, les enquêteurs n'ont pas vraiment d'éléments permettant d'identifier le monstre de Florence. Malgré les ressemblances, couple, secteur, arme, on peut douter que le monstre de Florence était le responsable du double meurtre de 1968, car il s'agissait de la vengeance d'un mari trompé, Stefano Mele. Tout laisse à penser que Mele était bien le coupable. Pour commencer, il a avoué avant de se rétracter. Il avait un mobile évident pour supprimer sa femme et son amant. Son alibi était fragile. Il avait expliqué être au lit car il était malade. La police scientifique a prélevé des traces de poudre sur les mains de Mele, prouvant qu'il s'était bien servi d'une arme à feu. Pour finir, son fils a été épargné par le tueur. Le double meurtre de 68 n'était a priori pas l'œuvre du monstre de Florence, car aucun couteau n'a été utilisé. Il n'y a pas eu de mutilation rituelle. De plus, contrairement aux autres affaires, le monstre de Florence a laissé la vie à un témoin, l'enfant de la victime. Un autre détail montre le caractère passionnel de ce crime. Le meurtrier, Stefano Mele, a abandonné le pistolet du crime sur place. Il n'a pas cherché à le cacher. C'est cette arme qui a ensuite été récupérée d'une manière ou d'une autre par le monstre de Florence. Pour toutes ces raisons, il y a de fortes raisons de penser que Stefano Mele, le mari trompé, était bien le responsable du double meurtre de 1968. Par contre, étant donné qu'il était mentalement lent, on le considérait un peu comme l'idiot du village, il a pu être poussé à éliminer son épouse par un autre de ses amants, l'un des frères Vinci par exemple. Étudions maintenant le profil du monstre de Florence. D'après le criminologue italien Francesco De Faggio qui a étudié le dossier, le monstre de Florence présente sûrement les caractéristiques suivantes. Solitaire, il ne travaille probablement avec personne d'autre. Célibataire, il n'a vraisemblablement aucune relation avec des femmes et peut-être même avec d'autres personnes. Il est âgé d'environ 40 ans et n'a pas d'emploi stable. Le monstre de Florence est certainement impuissant vu qu'il n'a jamais abusé d'aucune de ses victimes. Pour essayer de stopper le monstre de Florence, les policiers demandent aussi l'aide de profilers américains, les profilers du FBI, qui sont considérés comme les meilleurs au monde. L'analyse des profilers américains rejoint globalement celle du criminologue italien. Les spécialistes du FBI ajoutent toutefois quelques critères supplémentaires. Pour les profilers du FBI, le monstre de Florence est certainement originaire de la région. Il habite près du lieu du premier meurtre, c'est souvent le cas pour les tueurs en série. Le monstre de Florence est sûrement un ouvrier manuel. Son intelligence est moyenne. Il vit seul ou avec une personne âgée. Enfin, il peut utiliser de l'alcool ou de la drogue pour se booster avant de commettre ses crimes. Revenons maintenant en 1985. Après son dernier double meurtre, le monstre de Florence a envoyé directement à la procureure une enveloppe macabre. Et les autorités ne savent pas trop quoi en penser. Est-ce que cela annonce d'autres crimes plus violents à venir ou bien est-ce qu'il s'agirait d'un mot d'adieu? L'inspecteur en chef, Ruggiero Perugini, est maintenant en charge de l'affaire et il décide de tout reprendre à zéro, de coller aux faits et d'être pragmatique. Avec son équipe, il entreprend de dresser la liste de tous les délinquants et criminels de la région de Florence et de vérifier leur alibi pour voir s'ils étaient en prison ou en liberté au moment des meurtres du monstre. La police utilise un outil informatique pour effectuer des recoupements. Après avoir éliminé beaucoup de noms, les enquêteurs réussissent à obtenir une liste restreinte de suspects. Et un nom va retenir leur attention, celui de Pietro Pacciani, un ouvrier agricole de 60 ans. Non seulement Pacciani figure dans la liste, mais les enquêteurs ont reçu une lettre anonyme leur conseillant de s'intéresser à lui parce qu'il est un homme violent et dangereux qui maltraite sa femme et ses filles. Ce qui est vrai, et en fouillant dans son passé, les policiers découvrent des faits encore plus graves. En 1951, Pacciani a été condamné pour meurtre, et le scénario du crime intrigue particulièrement les enquêteurs. En 1951, Pacciani, âgé de 26 ans, avait vu sa petite amie d'alors partir dans la campagne avec un autre homme. Il les avait suivis et quand les deux amants avaient commencé à flirter, il s'était précipité sur eux et avait poignardé l'homme à mort. Et la suite est encore plus terrifiante. Pacciani avait ensuite forcé sa petite amie à avoir un rapport intime avec lui à côté du cadavre de son amant. Détail à noter, Pacciano avait volé le portefeuille de son ex-rival. Pour ce crime abject, Pacciani avait été condamné à 13 ans de prison, mais il était en liberté quand les meurtres du monstre de Florence ont démarré. Pietro Pacciani est un homme inquiétant. C'est un voyeur, un menteur pathologique qui nie l'évidence et qui a tendance à devenir violent à la moindre provocation. Pacciani est un homme bestial car il a abusé de sa femme et de ses propres filles, qu'il maltraitait dans la vie quotidienne. Il leur donnait par exemple de la nourriture pour chiens, pour faire des économies. Parce que Pacciani est connu aussi pour son avarice. Mais rien n'est simple. Pietro Pacciani est un homme complexe. Ouvrier agricole, il n'est pas très instruit, mais d'un autre côté, il a l'âme d'un artiste. Ses passe-temps favoris sont le dessin, la peinture et l'écriture de poésie. La personnalité à la fois brutale et artistique de Pietro Pacciani incite les policiers italiens à croire qu'il est bien le responsable des meurtres sophistiqués du monstre de Florence. Reste maintenant à trouver des preuves. La police italienne va donc procéder à une perquisition approfondie du domicile de Pacciani. Elle va durer 11 jours. Et les hommes de loi vont trouver un élément permettant de relier Pietro Pacciani au meurtre. Un bloc-notes vendu uniquement en Allemagne dans un magasin fréquenté par les victimes allemandes, Überruch et Horst Meyer. La plus belle trouvaille sera une balle de calibre 22 retrouvée semi-enterrée dans le potager de Pacciani. Le service de la balistique va confirmer qu'elle a bien été tirée par l'arme ayant servi au meurtre du monstre de Florence. La police italienne a maintenant assez d'éléments pour traduire en justice Pacciani. Mais il va falloir attendre. Car Pacciani a été condamné pour avoir abusé physiquement de sa femme et de ses deux filles. Il est incarcéré entre 1987 et 1991. Ce n'est que début 1993 que Pacciani est officiellement inculpé pour les crimes du monstre de Florence. Mais il crie son innocence. En avril 1994 s'ouvre le procès de Pietro Pacciani. L'accusation repose essentiellement sur des preuves circonstancielles. Pacciani a un passé de criminel. Il vivait près de certains lieux du crime. Des témoins auraient vu une voiture ressemblant à la sienne. Néanmoins, il faut reconnaître qu'à part le bloc-notes et la balle retrouvée dans son potager, les éléments à charge contre Pacciani sont plutôt maigres. quoi qu'il en soit, on ne lui accorde pas le bénéfice du doute. Le 1er novembre 1994, Pietro Pacciani est reconnu coupable de 14 des 16 meurtres dont il était accusé. En fait, il a été jugé non coupable pour le double meurtre de 1968. Pacciani est condamné à la prison à perpétuité. Mais il ne va pas rester derrière les barreaux très longtemps. En février 1996, la cour d'appel de Florence annule le jugement par manque de preuves. En effet, toutes les preuves ayant entraîné la condamnation de Pacciani sont jugées insuffisantes. Les quelques preuves ne sont que circonstancielles. On n'a pas d'aveu, pas de preuves ADN. Et en ce qui concerne la balle de calibre 22 trouvée dans le jardin de Pacciani, on peut se poser des questions. Cette preuve paraît un peu tombée du ciel. Pendant toutes ces années, le monstre de Florence a été très organisé. Hein. Il n'a pratiquement jamais commis d'erreur. Et puis là, il va laisser bêtement une balle dans son potager. C'est pour le moins étonnant. Le juge de la cour d'appel insinue même que cette balle de calibre 22 aurait pu être déposée par la police pour justifier la condamnation de Pacciani. Il aurait été piégé. Par ailleurs, il n'est pas impossible que le vrai monstre de Florence ait lui aussi amené cette balle aussi. Hein. Peut-être que le vrai coupable a amené cette balle dans le jardin de potager pour incriminer Pacciani. Et c'est vrai que quand on compare le profil de Pacciani avec celui du monstre de Florence, il y a quand même d'autres points qui ne collent pas. Tout d'abord, la taille. La police estime que le monstre de Florence était plutôt grand, qu'il mesurait au moins 1m80. Or, Pacciani ne mesurait qu'1m60. Le monstre de Florence était considéré comme impuissant. Et c'était pas du tout le cas de Pacciani, hein. C'était plutôt même le contraire. Hein. Pacciani était un homme pingre et avare. Il ne loupait jamais une occasion de se procurer facilement de l'argent. Rappelez-vous qu'il avait volé le portefeuille de son rival amoureux après l'avoir tué en 1951. Et ce point n'est pas cohérent avec le mode opératoire du monstre de Florence qui n'a jamais dérobé d'argent ou d'objets de valeur à ses victimes. Il y a aussi une controverse concernant le double meurtre du couple de Français Nadine Moriot et Jean-Michel Cravèche-Villy. La police a établi qu'il avait eu lieu le dimanche 8 septembre 1985 au soir, mais l'autopsie a révélé que leur estomac contenait toujours des pâtes mangées le samedi, ce qui signifie qu'ils ont peut-être été assassinés plus tôt le samedi 7 septembre au soir. Et le samedi, Pacciani avait un solide alibi. Enfin, Pacciani avait 60 ans en 1985, l'année du dernier double meurtre. En plus d'être âgé, Pacciani souffrait d'une maladie cardiaque. On peine à croire qu'il ait réussi à rattraper l'une de ses victimes, hein, Jean-Michel Cravèche-Villy, qui n'avait que 25 ans et qui était très sportif. C'était un champion du 100 mètres. Pour toutes ces raisons, la justice italienne casse la condamnation de Pietro Pacciani, qui est libéré de prison en février 1996. Là, c'est un peu le retour à la case départ. Et c'est terrible, hein. Vous vous rendez compte? Ça fait 15 ans que l'affaire a démarré. Mais les policiers italiens ne sont pas au bout de leur surprise. En effet, un rebondissement inattendu va survenir dans cette affaire. Deux témoins, dont une prostituée, vont rappeler avoir observé un véhicule louche garé tout près du double meurtre de 1985. Et cette voiture appartenait à un ami de Pacciani nommé Giancarlo Lotti. Lotti est un vagabond alcoolique de 56 ans. Interpellé par la police après avoir été mis sur écoute téléphonique, Lotti avoue avoir été présent lors de certains crimes commis par Pacciani. À l'entendre, le monstre de Florence n'agissait donc pas seul. Dans un premier temps, Giancarlo Lotti déclare que son rôle était simplement de faire le guet pendant que Pacciani perpétrait les crimes. Cependant, il va finir par avouer que c'est lui qui a tiré sur le couple d'Allemands, Uwe Rüsch et Horst Meyer. On va même apprendre que Pacciani avait en plus de Lotti un autre complice nommé Mario Vanni, un ancien postier de 69 ans. Et c'est Vanni qui se serait servi du couteau pour mutiler les victimes. Il y avait donc non pas un duo mais un trio de tueurs, ce qui est assez rare. Et ça fait peur. Et ça expliquerait pourquoi aucune victime n'a réussi à échapper au monstre. On pense en particulier à Jean-Michel Cravèche-Villy. Giancarlo Lotti et Mario Vanni vont être jugés et reconnus coupables de plusieurs des meurtres. Ils vont être condamnés en 1998. Vanni à la prison à perpétuité et Lotti à 30 ans de réclusion criminelle. Sur la base de ces nouveaux éléments, un nouveau procès est prévu pour Pietro Pacciani. Mais il ne se tiendra jamais. Car Pacciani décède dans ce qui ressemble à une crise cardiaque le 22 février 1998. Les circonstances de sa mort restent suspectes. En effet, on a trouvé Pacciani dans sa maison avec son pull tiré jusqu'au cou. Des analyses sanguines ont révélé des traces d'un médicament anti-asthmatique fortement contre-indiqué pour lui. Pacciani ne souffrait pas d'asthme et de problèmes cardiaques. Autre détail étrange, depuis sa libération en 1996, Pacciani, qui vivait seul, avait l'habitude de se barricader dans sa maison le soir. Il fermait sa porte et toutes ses fenêtres, comme s'il avait peur de quelque chose ou de quelqu'un. Soit il était parano, soit il était vraiment menacé. Mais lorsque les policiers ont découvert son corps sans vie, la porte et les fenêtres de sa maison étaient toutes ouvertes. Certains ont peut-être jugé qu'il en savait trop, qu'il était devenu gênant et qu'il fallait le liquider. Aujourd'hui, Giancarlo Lotti et Mario Vanni, les deux complices présumés de Pacciani, sont eux aussi décédés. Lotti est mort d'un cancer du foie, c'était un ex-alcoolique, et Vanni de cause naturelle. L'affaire du monstre de Florence reste une énigme parce que certains ont mis en doute les aveux de Giancarlo Lotti, jugé comme un témoin peu fiable. Vagabond et alcoolique, il aurait avoué dans une soif de reconnaissance pour faire parler de lui et possiblement pour améliorer ses conditions de vie. En liberté, il était toujours dans la galère et en prison, il avait une existence plus confortable. Il était sûr d'être logé et bien nourri. Ce qui est passionnant, c'est que beaucoup d'observateurs ont d'autres théories sur la véritable identité du monstre de Florence. Certains pensent par exemple qu'il n'a jamais été soupçonné par la police. Citons quelques-unes des autres pistes les plus intrigantes. Certains pensent que le monstre de Florence était un membre de la police. Cette théorie a été avancée par Nino Filasto, l'avocat qui a défendu Mario Vanni, l'un des deux présumés complices de Pacciani. Un témoin anonyme aurait confié à Filasto qu'avant l'un des meurtres, il aurait vu une voiture de police d'apparence suspecte passer lentement près d'un lieu du crime. Autre détail bizarre, il n'y avait qu'un seul policier à bord, alors qu'en Italie, les policiers patrouillent généralement toujours en binôme. Un autre point tente à valider cette théorie. Le monstre de Florence a souvent manipulé le travail des enquêteurs sur l'affaire. Citons l'exemple de la coupure de presse relative au meurtre de 1968 envoyée à la police. Était-ce pour les orienter sur une fausse piste? Quand on étudie les événements, on a parfois le sentiment que le monstre de Florence était au courant de ce que faisait la police. Point supplémentaire, un membre des forces de l'ordre savait sûrement mieux que les autres comment laisser le moins possible d'indices derrière lui. En ce qui concernait le mode opératoire des crimes, les victimes se seraient sûrement moins méfiées d'un policier. Il aurait pu faire semblant de les contrôler avant de les attaquer par surprise. Enfin, un policier aurait pu piéger facilement Pietro Pacciani en déposant une balle de calibre 22 dans son potager. C'était assez simple à faire. Je dois dire que personnellement, je trouve cette théorie assez convaincante. Mais il y en a d'autres. La piste sarde est la théorie privilégiée par Mario Spezzi, un journaliste qui est le spécialiste mondial de l'affaire du monstre de Florence. Pour Spezzi, le tueur est à chercher dans le clan sarde impliqué dans le premier meurtre de 1968, le clan auquel appartenaient les frères Vinci. Pour Spezzi, la question de l'arme est essentielle, car c'est le fameux pistolet Beretta 22 long rifle qui relie tous les meurtres. Selon Spezzi, un membre du clan aurait récupéré l'arme en 1968 et s'en serait servi en reproduisant le scénario du crime initial de 1968. Donc on serait clairement dans le cas d'un copycat, c'est-à-dire un imitateur. Théorie suivante. Pour l'auteur Antonio Segnini, le monstre de Florence était Giancarlo Lotti, qui aurait agi seul du début à la fin. Vagabond, Lotti était avant tout un voyeur. Il se cachait dans l'obscurité pour espionner les couples d'amoureux. Et c'est lui qui, en 1968, aurait été témoin du double meurtre. Et c'est lui qui aurait récupéré l'arme de Stefano Mele, le mari cocu qui avait abandonné le pistolet sur place. Et des années plus tard, Lotti se serait servi de cette arme pour commettre ses crimes. Giancarlo Lotti avait besoin de se sentir important, il avait un besoin de reconnaissance. Voilà pourquoi il se serait mis à tuer, voilà pourquoi il aurait décidé de devenir le monstre de Florence. Et pour trouver son propre style, il se serait pas trop fatigué, hein. Il se serait inspiré du double meurtre de 68 dont il avait été témoin. En clair, Giancarlo Lotti aurait été aussi ce qu'on appelle un copycat, imitateur, copieur. Il aurait reproduit toujours le même scénario par la suite. Il aurait toujours abattu, poignardé des couples d'amoureux. Et en plus, Lotti correspondait plus au profil du monstre de Florence que Pacciani. Lotti était un paria qui n'avait jamais eu aucune relation amoureuse avec une femme et il avait une taille compatible avec celle du tueur, dans les 1m80. Lotti aurait avoué n'être qu'un complice et accusé Pacciani et Vanni pour alléger sa propre peine, parce qu'il a bien reconnu avoir participé à certaines des tueries. Mais en réalité, Giancarlo Lotti n'était peut-être que le seul responsable des meurtres. Là, cette piste doit être étudiée très sérieusement parce que dans cette affaire, la piste satanique a été avancée par quelqu'un de très important, quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, le commissaire Michele Guittari, qui était en charge de l'affaire de 1995 à 2003. Et pour lui, le trio de tueurs, donc Pacciani, Lotti et Vanni, auraient travaillé pour le compte d'une secte satanique. Les parties du corps prélevées par le monstre de Florence et qui n'ont jamais été retrouvées, à part le morceau de sein qui avait été envoyé par la poste à la procureure, auraient été utilisées dans des rituels ésotériques, sataniques, au cours de messes noires. Elles auraient servi d'offrande au diable. Et Guittari a indiqué qu'il possédait des preuves, comme par exemple une étrange pierre octogonale en forme de pyramide qui aurait été trouvée sur l'une des scènes de crime. On aurait aussi trouvé des pierres disposées en cercle avec une croix à l'intérieur, de possibles symboles sataniques. Et d'après Guittari, le monstre de Florence, c'est-à-dire le trio de tueurs, aurait agi sur les ordres d'un membre haut placé de cette secte. Cette personne aurait occupé une position sociale très élevée. Elle aurait pu être médecin ou un professeur distingué. Donc cette thèse n'a pas été soutenue par un farfelu ou un complotiste, mais par, encore une fois, le commissaire en charge de l'affaire entre 1995 et 2003. Donc on ne peut certainement pas l'écarter d'un revers de la main. Et en 2007, un pharmacien nommé Francesco Calamandrei a d'ailleurs été arrêté. On le suspectait d'être le cerveau dans cette affaire, l'instigateur des crimes qui aurait manipulé Pacciani et ses complices. La piste satanique n'a pas pu être prouvée. Encore une fois, cette théorie reste intrigante, car il est avéré que Pacciani et Lotti appartenaient tous les deux à un groupe occulte. Par conséquent, il serait bien naïf de dire que tout ça n'est pas crédible. Ça, c'est intéressant. Certains ont laissé entendre que le monstre de Florence aurait transmis des messages cryptés à la police. Par exemple, rappelez-vous de la faute d'orthographe dans la lettre anonyme envoyée à la procureure en 1985. Le mot « Repubblica » avait été mal orthographié. Il manquait un « B ». Eh bien, un criminologue a théorisé que le tueur avait intentionnellement enlevé cette lettre pour suggérer qu'il vivait dans une ville dont le nom commençait par la lettre B, comme Bagno a Ripoli, une ville dans la banlieue sud-est de Florence. Nous arrivons maintenant à la conclusion de l'affaire. L'affaire du monstre de Florence est aussi passionnante que complexe. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Vu toutes les questions restées sans réponse, certains estiment que l'affaire est toujours irrésolue à l'heure actuelle. Un peu comme celle du tueur du Zodiac. Moi, je trouve d'ailleurs que ce dossier est encore plus difficile à traiter que celui du Zodiac, car il s'est étalé sur plusieurs décennies. Il y a eu énormément de victimes, 16, et presque autant de suspects. Cette histoire a profondément marqué l'Italie et elle a inspiré les romanciers. L'exemple le plus célèbre est celui de Thomas Harris, l'auteur du « Silence des agneaux ». Harris est même allé jusqu'à assister au procès de Pacciani. Il s'est inspiré de l'affaire du monstre de Florence pour son roman Hannibal, qui est devenu un film réalisé par Ridley Scott avec l'acteur Anthony Hopkins, Hannibal Lecter. L'action du film se passe, bien entendu, à Florence. Le film se laisse regarder, bon, il n'est pas aussi bon que Le Silence des agneaux, parce que c'est la suite du Silence des agneaux. Mais bon, ça vaut pas l'histoire originale, celle du monstre de Florence, qui est ultime pour moi. C'est ultime parce que vraiment, il y a tout dedans. Le mystère, l'horreur, le suspense, c'est vraiment très stimulant d'un point de vue intellectuel. Et force est de constater qu'on n'a toujours pas trouvé la clé de l'énigme. Moi, je trouve que c'est une histoire qui est vraiment passionnante, fascinante, et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous aujourd'hui. Adesso credo nei miracoli.
con questa luna piena.